Père Samer Nassif, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre libanais de rite maronite, vous vivez en France et vous venez témoigner ce samedi et dimanche 25 et 26 juillet à Saint-Jean-de-Luz pour nous parler de la situation des chrétiens d'Orient avec l'AED, l'aide à l'église en détresse avec laquelle vous travaillez depuis presque 20 ans. Alors Père Samer Nassif, on le sait, la situation des chrétiens d'Orient est dramatique depuis plusieurs années. Vous allez en témoigner. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur cette situation aujourd'hui?
C'est pas seulement il y a quelques années, ça fait un siècle et demi que les chrétiens d'Orient vivent drame sur drame, depuis 1860, passant par la Première Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas une souffrance nouvelle, c'est une souffrance qui dure depuis des années. En tout cas, le déséquilibre du Proche-Orient fait que les chrétiens du Proche-Orient sont persécutés autant, comme peut-être toutes les communautés orientales, surtout les communautés minoritaires autres que les chrétiens aussi sont persécutés. Je ne parle pas seulement des musulmans, mais on a au moins 15 communautés en Orient qui sont ni chrétiens ni musulmans. Cela étant dit, il faut savoir que les chrétiens d'Orient sont le vrai peuple d'Orient. Nous sommes des peuples qui vivaient en Orient depuis 6 ou 7 000 ans et qui sont devenus chrétiens il y a 2000 ans. Donc nous sommes le vrai peuple d'Orient. Et nous sommes les premiers chrétiens du monde aussi. Il faut savoir que Jésus, quand il a commencé à prêcher, il n'a pas prêché ni à Marseille, ni à Francfort. Il a prêché en Orient. Il a prêché certainement dans la région de la Galilée, puis en Jérusalem, et il est aussi venu au Liban, jusqu'à passer 6 ou 7 ans dans son enfance en Égypte. Donc c'est ça le Proche-Orient. Voilà. Mm-hmm. Nous sommes les premiers chrétiens du monde. Jésus parlait notre langue et avait notre culture. Alors, c'est pourquoi nous sommes importants, parce que pour revenir à la source de notre foi, il faut toujours revenir à la source de la culture et de la langue de notre peuple. Nous sommes minoritaires aujourd'hui, mais on ne l'a pas toujours été. Ça veut dire, à la moitié du 19e siècle, les peuples du Proche-Orient étaient au moins à moitié chrétiennes. Ça veut dire, au Liban, il y avait 70% de chrétiens, en Syrie, il y avait 50% de chrétiens, en Turquie, il y avait 50% de chrétiens, en Irak, il y avait 60% de chrétiens. Donc, le nombre de chrétiens au 19e siècle était très élevé, et aujourd'hui, on est revenu à un nombre très restreint.
Et il y avait une bonne entente à l'époque?
Toujours, le chrétien était en bonne entente avec les communautés non chrétiennes. Ça, c'est notre évangile. L'Église n'est pas faite pour elle-même, elle est faite pour être lumière du monde. C'est la preuve de nos écoles catholiques qui ont accueilli toujours toutes les communautés. Parce qu'avant, les écoles catholiques n'avaient pas d'école en Orient. Ce sont les écoles catholiques qui ont commencé à éduquer les peuples du Proche-Orient. C'est pourquoi on va voir beaucoup de baptêmes de nos chrétiens à cause de cette ferveur d'éducation qu'on a eue en Orient. Donc, et qui est venu à nos écoles, pas seulement les chrétiens catholiques, mais aussi les autres communautés, autant les orthodoxes que les musulmans, chiites, sunnites, que les druzes, que les alaouites, que les mandéens, etc. etc. Donc,
pourquoi cette persécution aujourd'hui, alors?
Pour moi, il y a une cause première. Après, il y a beaucoup d'autres causes, parce que c'est complexe. Il n'y a pas une seule cause. La cause, je pense, première, c'est que les chrétiens sont là pour unir les communautés non chrétiennes. Ça veut dire, sans les chrétiens, la vie conviviale entre les non-chrétiens est quasiment impossible. Vous ne trouverez jamais un village mixte chiite-sunnite. Mm-hmm. On voit bien en Palestine qu'il y a des murs entre juifs et musulmans. Il y a des murs même en Irak entre chiites et sunnites à Bagdad. Mm-hmm.
Vous œuvrez à la communion.
Les chrétiens, c'est pas nous, c'est les chrétiens. C'est Jésus, quand il est allé en Samarie, il y a une entre parenthèse de l'évangile de Saint-Jean qui dit que les Samaritains ne fréquentent pas les Juifs, et les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. C'est-à-dire que ce sont deux communautés religieuses qui vivent loin l'une de l'autre, qui ne se parlent pas, qui ne se fréquentent pas, vous voyez.
Oui.
Et c'est comme ça aussi en Orient, chiite, sunnite, impossible un village mixte entre druzes, musulmans, impossible, à la huit druzes, impossible, à la huit musulmans, impossible.
Oui.
On voit très bien les villages chrétiens qui entourent les alaouites pour qu'ils puissent vivre entre les chrétiens et avec eux, mais pas avec les autres communautés. C'est impossible. Vous mettez chez les sunnites face à face, c'est la guerre. Je pense que le départ du centre-ville de Bagdad, qui était chrétien et qui unifiait le quartier chiite et sunnite, quand on est parti, la guerre a éclaté entre chiites et sunnites, ce que les Américains sont devenus fous. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils se combattaient tout à coup. Parce qu'il n'y avait plus de chrétiens au milieu. Le Liban, c'est important parce que il y a le rôle des chrétiens qui ont fait que le Liban est un pays de convivialité et de dialogue entre 19 communautés religieuses. Mm-hmm. C'est, vous enlevez les chrétiens du Liban, c'est fini. Le Liban n'est plus le Liban, si on veut dire.
Vous voyez, ouais, donc il est essentiel que les chrétiens puissent rester dans ces régions, alors.
C'est pourquoi on nous vise, parce que s'il n'y a pas de chrétiens en Orient, on n'aura pas des pays comme le Liban, la Syrie et l'Irak. On aura peut-être le Chiistan, le pays des chiites, le Sunnistan, le Druzistan, le Kurdistan, le pays des juifs, etc. etc. Vous comprenez? Ce qui fait qu'un pays a son unité dans les pays arabophones au Proche-Orient, c'est la présence des chrétiens. Puis nous sommes un peuple de culture. Regardez par exemple en Irak, dans l'école publique en Irak, c'était les chrétiens qui étaient professeurs. Ouais. Alors que les chrétiens représentent aujourd'hui même pas 1 ou 2% de la population.
Alors comment faire pour aider justement ces chrétiens à rester, à vivre en paix dans ces pays?
Écoutez, aujourd'hui par exemple au Liban, on a une grande crise économique. Parce que si le Liban tombe, le Liban est un pays où le président est chrétien. Nous avons encore un rôle politique important au Liban. Le Liban égale libre, ça veut dire que le peuple libanais est libre, surtout les chrétiens. On peut au Liban, par exemple, baptiser un non-chrétien sans que le non-chrétien risque la prison et sans que le prêtre risque la mort par les lois de l'État. Ouais. On peut éditer des livres, on peut avoir une radio, une télévision. On a une liberté chrétienne au Liban. Et au Liban, aujourd'hui, on passe par une grande crise politique. Je donne un exemple. En octobre 2019, $1 faisait 1500 livres libanaises. Maintenant, $1 fait 10 000 livres libanaises. Vous imaginez la ruine de beaucoup de gens. Ouais. Par exemple, maman qui a reçu de papa une certaine somme d'argent. C'est tout le travail de papa durant toute ma vie, qui a laissé à un moment quelque chose pour vivre en livre libanais. Si le dollar va continuer à augmenter comme ça, l'argent de maman ne sera rien.
Ouais. Et cette
crise économique augmente beaucoup, à tel point que les Libanais n'arrivent plus à acheter la viande. On est un peu comme le Venezuela, si on veut dire, ouais. Comme la crise au Venezuela. Mais le Libanais ne supporte pas qu'on vive comme ça. Le Libanais aime vivre, vous voyez, quand il ne peut pas acheter de la viande pour manger, quand les hôpitaux ferment, quand les écoles catholiques ne peuvent pas ouvrir leurs portes l'année prochaine, dont l'éducation est en danger, quand il n'y a plus de médicaments, quand il n'y a plus d'électricité, quand il n'y a plus peut-être de téléphone à un moment donné. Ouais. Comment on va vivre? Et tout cela, je ne veux pas entrer dans les détails, mais le ministre des Affaires étrangères français, il y a 2 jours au Sénat, il a bien dit les choses. Pourquoi le Liban, on ne l'aide pas pour sortir de sa crise économique? Parce qu'on a un État dans l'État, qui est le Hezbollah libanais, et on veut que le Hezbollah libanais donne ses armes à l'État libanais. Ouais. Qu'il arrête d'utiliser les banques pour le blanchiment d'argent, d'utiliser les frontières du Liban pour le trafic de la drogue, pour le terrorisme, parce qu'il est noté comme organisation terroriste dans tous les pays européens. Donc tant que l'Espagne ne va pas donner ses armes pour que le Liban puisse respirer, si on donne de l'argent au Liban, il va aller dans le poste de Hezbollah libanais et on va continuer à vivre. Tout à coup, le monde occidental, le monde arabe, le monde africain, tous les pays du monde, tout à coup, sauf 2 pays peut-être, la Chine et l'Iran, mais tous les autres pays du monde veulent que Hezbollah tout à coup donne ses armes à l'État libanais. On a décidé ça. Ouais. Alors que pendant des années, on a rien dit, on a laissé le Hezbollah libanais au Liban grandir jusqu'à devenir aussi grand comme aujourd'hui.
Ouais. Donc on le voit, la situation est complexe et peut-être faut-il.
Ça fait 3 ans et demi qu'on n'a reçu pas un sou au Liban, sou. Ouais.
Alors c'est pour ça l'AED, l'aide à l'église en détresse, peut aider de l'intérieur.
Il faut aider surtout les prêtres, madame, parce que les prêtres aident les populations. Quand les gens n'ont plus rien à manger, ils vont se tourner vers qui? Les prêtres. Mon évêque m'a dit, dans 2 mois, je ne pourrai plus donner ni action de messe, ni salaire aux prêtres. Je n'ai plus d'argent. Ouais. Et les prêtres divisent. Par exemple, s'il a 10 euros à un prêtre, il va donner 2 euros à lui-même pour manger. Ouais. Et 8 euros à son peuple. Mais les prêtres ne peuvent plus prendre rien des gens pour quand ils font une action de messe ou des obsèques ou des baptêmes, etc. Ils ne prennent plus rien des gens parce que les gens ont commencé à avoir faim.
Ouais.
Il y a une crise économique au Liban incroyablement difficile que le ministre des Affaires étrangères français l'a exprimé devant les députés étonnés qu'on laisse un peuple mourir de faim sans intervenir parce qu'il y a une force politique dans le monde qui veut finir avec la Hezbollah libanais.
Ouais.
Mais lui, il ne veut pas donner ses armes.
Ouais.
Il a dit, même si le peuple libanais meurt de faim, je ne donnerai pas les armes à l'État libanais.
Mmh. Voilà. D'où l'intérêt de passer par les associations. Alors, l'aide à l'Église en détresse est très active. Il faut vous aider. Donc, on peut aller sur le site de l'aide à l'Église en détresse.
Et si on va donner quelque chose pour nous, il faut bien déterminer si c'est pour les chrétiens du Liban, il y a un moment où on détermine, ou c'est pour n'importe quel chrétien persécuté dans le monde, ou bien pour les réfugiés, peut-être syriens ou irakiens ou libanais, pour etc. Tu vois.
Voilà,
pour
entretenir peut-être les chrétiens
en Irak. Voilà, on peut orienter. Mais aujourd'hui, la priorité, je pense, c'est que le Liban puisse vivre, parce que si le Liban est rayé de la carte géographique, c'est catastrophique. Mmh. Tout le Liban n'est pas le Hezbollah libanais. Et maintenant, on punit tout le Liban comme si c'est un pays de Hezbollah libanais. C'est comme un peu Gaza, si on veut. Et c'est pas vrai du tout.
Ouais.
Nous, on combat cette organisation terroriste, mais c'est pas nous qui l'ont imposé au Liban. C'est la communauté internationale qui est responsable de cela.
Très bien. Merci beaucoup, Père Samer Nassif,
pour
ce témoignage.
De rien.
Et puis,
merci
donc,
à vous. Merci
on peut
à vous
venir vous écouter donc le 25
exactement,
et 26
exactement.
Juillet à Saint-Jean-de-Luz, à l'église Saint-Jean-Baptiste. Vous prêcherez à la messe de 18h30 du samedi soir et aux messes du dimanche, donc 8h30, 10h30 et 18h30.
Merci. Voilà. Merci à vous.
Et merci beaucoup.
Soyez nombreux à venir m'écouter. Grand merci.
Merci, Père Samer Nassif.